Alleluia, 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 alleluia.
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le zélote. Et Judas, l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est en route. Le verset qui précède ce passage nous dit en effet que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues et proclamant l'évangile du royaume. Il est donc à l'œuvre. Sur sa route, il voit les foules et le texte nous dit qu'il en a pitié. Le cœur de Jésus est bouleversé. Il est bouleversé, ce n'est pas par la première fois, il est bouleversé par les peines de notre humanité, qu'elles soient physiques, psychiques ou morales. Ces foules, l'évangéliste Matthieu les décrit comme des brebis sans berger. Si la comparaison avec les brebis est fréquente dans l'Évangile et dans toute la Bible, ici ce troupeau est sans berger, livré à lui-même et donc à tous les dangers. Mais Jésus ne se situe pas comme la réponse à ce manque, comme le bon berger que l'on peut entendre ailleurs. Et Matthieu poursuit. Il ouvre encore plus large et déplace la comparaison, la métaphore du registre pastoral, celui des brebis, au registre agricole, celui de la moisson. La moisson est abondante, entendons-nous. Malgré la fatigue et les doutes, malgré les aléas, Jésus voit dans ses brebis une belle moisson. Une moisson en qualité et aussi en quantité. Autrement dit, là où se manifeste toute la peine et la lourdeur de nos vies humaines, Jésus ne voit ni chute ni déchéance, mais tout au contraire, un champ prêt pour la récolte, une ouverture à l'espérance. Et donc le troupeau ne doit pas se morfondre, car le troupeau est signe d'un avenir. Et pas plus que Jésus ne se compare lui-même à un berger, Jésus n'envoie ses disciples pas plus donc en berger de ses foules. En revanche, il les invite à prier l'unique maître de la moisson, celui qui seul décide d'envoyer des ouvriers pour ce travail. Et donc Jésus ne nous invite pas, n'invite pas les disciples à remplacer le maître de la moisson. En revanche, humblement, il renvoie au Père. Et il nous invite à faire de même. Si nous voulons suivre Jésus, il nous faut croire que l'Esprit du Père nous précède. Croire que la bonne nouvelle est déjà semée en terre humaine. Ne prétendons pas semer ce que Dieu a déjà lui-même semé. En revanche, il nous faut consentir à être envoyés et à moissonner là où on n'a pas semé. Il nous faut aller cueillir les fruits de cette terre ensemencée par Dieu. Puis dans le texte vient l'appel des 12. On est dans l'articulation entre le chapitre 9 et le chapitre 10 de Matthieu. C'est la première fois dans l'évangile de Matthieu que l'on rencontre les 12 et nommés en tant que tels. Par Jésus, ils reçoivent pouvoir sur les malades et les démons. Dans le texte, on pourrait même dire sur les souffles impurs, sur les souffles mêlés. À partir de cet instant, les 12 sont nommés apôtres, c'est-à-dire envoyés. De disciples appelés qui ont écouté et suivi le Christ, ils deviennent désormais envoyés. Envoyés pour partager à leur tour le souffle avec ceux qui suffoquent. Envoyés pour ouvrir à l'espérance ceux qui désespèrent. Selon l'expression du pape, ils sont des disciples missionnaires. Et si vous y aviez prêté attention, les 12 sont nommés, mais pas uniquement par leur nom, ils sont nommés par d'autres traits. Ils sont envoyés deux par deux, et si Pierre, désigné comme le premier, les autres ensuite sont bien, dès le début, dans un compagnonnage. Et un lien fraternel les unit. André, le frère, Jacques et Jean, des frères. Ce sont des identités marquées par ce qu'ils sont, Simon, le zélote, et même Judas, l'Iscariote. Ils sont identifiés par ce lien-là qui les unit entre eux, une histoire, une filiation, et Matthieu, lui, le publicain, qui est aussi référé à son métier, à son statut social. Et on l'a dit, Judas n'est pas oublié. Pourtant, il est bien celui-là même qui le livra. Ce n'est donc pas un groupe de purs que Jésus a appelé et envoyé, mais des disciples, avec une histoire, des relations, un travail et aussi des faiblesses. L'Évangile n'est pas confié à des surhommes, l'Évangile est à hauteur d'homme. Pour conclure, notons que l'envoi de Jésus est dynamique. Il était lui-même en route et à notre tour, il nous met en route, il nous met en mouvement avec les premiers apôtres. Il leur dit, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Il nous faut donc bouger, quitter nos certitudes et laisser derrière nous nos idées reçues. Il nous faut découvrir le royaume de Dieu là où nous ne l'attendions pas. Cette annonce du royaume, si elle est à destination avant tout des brebis perdues d'Israël, elle n'est pas pour autant exclusive. En revanche, si ce peuple ne porte pas tout entier la marque de l'Évangile, qui pourra alors croire au message ? Si le peuple de l'Alliance n'est pas tout entier transformé la bonne nouvelle, s'il n'est pas tout entier porteur de ce message annoncé par le Fils, comment le monde pourrait-il aller vers le Père ? Et nous, désormais, à notre tour, membres de l'Église, portons-nous l'Évangile dans nos cœurs ? Sommes-nous crédibles dans nos habitudes, dans notre manière de rentrer en relation avec celles et ceux qui ne partagent pas notre foi ? Sommes-nous des témoins d'espérance dans ce monde si souvent en proie au doute et au désespoir ? Sommes-nous sincèrement, les uns pour les autres, des frères et sœurs en Christ ? L'amour que nous avons reçu gratuitement de Dieu, nous devons le partager gratuitement. Ainsi, nous serons de véritables disciples missionnaires.